Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Magic 101. Mon nom est Guillaume, je suis votre animateur. Et pour se joindre à moi en ce 18e épisode, un visage connu de la balado, mais ce n'est pas le doux visage de Renaud. Non, c'est celui de Raph Boisvert. Salut Raph, ça va?
J'aimerais ça, mais oui, ça va.
Oui, mais on aimerait ça que Renaud soit avec nous, mais il ne pouvait pas être là. Puis on a décidé qu'on voulait sortir une balado cette semaine parce que c'est Grand Prix Québec. Cette fin de semaine et on voulait préparer les joueurs qui vont écouter la balado. Donc le but de la balado de cette semaine, c'est un peu de faire un topo de la metagame parce qu'on a eu un pro tour en fin de semaine dernière et qui dit pro tour dit que souvent la metagame va se cristalliser autour de certains decks. C'est sûr que c'est pas coulé dans le béton pour jusqu'à la prochaine sortie. Mais quand même, souvent, on va avoir une bonne idée des decks qui sont à surveiller. Donc on voulait faire un peu un tour d'horizon. Des decks à surveiller et Raph, tes connaissances en standard, tes qualités de joueur vont m'aider parce que moi, honnêtement, un peu rouillé, hein, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de balado, mais ça fait aussi longtemps que je n'ai pas joué un deck standard. En fait, pas mal depuis que moi, je ne peux pas m'acheter 4 Jace à 400$. Je peux pas. Fait que je regarde du standard à TV comme, je veux dire, je peux pas jouer dans les Canadiens non plus, mais je regarde ça quand même. Fait que là, je regarde du monde jouer avec des Jace et je les trouve bien bons.
Beaucoup de talent,
beaucoup d'argent. Mais écoute, je me plains pas. Magic, ça a toujours été un jeu qu'on combinait collection, finance. Et bon, écoute, en ce moment, ça tombe que les cartes que j'aimerais jouer coûtent cher. C'est pas grave. Je vais me rabattre sur moderne. J'ai déjà mon deck. Puis je vais regarder du monde jouer standard. Puis peut-être quelqu'un va me prêter une pile un jour. Ceci dit, je peux pas me déplacer à Québec en fin de semaine, mais quand même, j'aimerais ça qu'on puisse toucher aux decks les plus importants qu'on a vu émerger au Pro Tour. Tu sais, qu'on avait vu, parce qu'en fait, depuis que Battle to Zendikar était sorti, on avait eu droit à, si ma mémoire est bonne, 2 SCG Open. Fait qu'on avait commencé à voir certains decks émerger. Il y avait aussi, évidemment, sur Magic Online qui est sorti un peu plus tard, mais quand même qu'on a vu un peu les effets. Et là, avec le Pro Tour, on a vraiment pu voir les decks qui étaient les mieux placés en ce moment dans la metagame. Donc, j'aimerais ça qu'on commence peut-être avec un tour d'horizon. Peut-être les deux nouveaux decks. Il y en a un des deux qui est Green-White Megamorph, qui n'est pas vraiment un nouveau deck, mais je pense qu'avec la rotation, même si ça a perdu des pièces clés, comme par exemple Course of Crucifix, c'est un deck qui existe, qu'il faut connaître et qui est quand même performant.
C'est un deck qui a pas mal toujours existé, mais c'est quelque chose qui est encore en vigueur. Ouais. Avant, tout le monde jouait pas mal à Bzan pour avoir accès à Nefenza, Seadrino, mais avec la nouvelle Mana Base, nouveau Gédéon, le deck est tellement stable, il n'y a rien à redire là-dessus.
Puis qu'est-ce qui peut amener un joueur à couper noir, dans le fond, pour aller juste vers blanc et aller penser plus Megamorph qu'à Bzan? Parce que finalement, on se dit que Seadrino, c'est une carte dominante, on a accès à Anafenza. Pourquoi qu'on voudrait couper le noir, surtout qu'on sait que, comme tu l'as dit, avec Battle to Zendikar, peut-être une des choses que ça a apporté, c'est une mana base qui est très solide, une mana base qui nous donne accès à trois couleurs de manière très efficace. Il y a même des lands, comme par exemple le land blanc-noir, que je pense que c'est jouable et justement que ça pourrait peut-être être inclus. Qu'est-ce que tu penses qui fait que vert-blanc continue d'être une force en standard, même si on pourrait assez facilement splasher du noir pour avoir accès, par exemple, à un Seadrain?
L'avantage de jouer vert-blanc, avant on avait très difficilement une forêt tour 1 pour jouer Warden of the First Tree.
Ouais.
Maintenant c'est automatique, on joue 8 fetch qui vont chercher des forêts, on a 6 forêts dans le deck. C'est super agressif, super stable, on a une belle curve 1, 2, 3, 4, puis on va même à 5 pour Wingmate Rock. Les gens sont de plus en plus préparés à Seadrino. Et la grosse chose que les gens s'attendaient pas vraiment, c'est vraiment difficile d'aller chercher du noir avec des fetch absents.
Ok, ouais.
Les Wet-Footed ne vont pas chercher les couleurs ennemies.
Ouais.
Il faut avoir comme une fetch qui va chercher une couleur qu'on joue même pas dans le deck pour aller avoir accès au noir.
Ouais.
Tu te rajoutes des étapes pour ramener des cartes qui sont remplacées par des cartes qui sont si bonnes.
Donc, Green-White, pour garder du tempo, pour rester en avant de la curve, peut pas se permettre d'aller chercher une troisième couleur, finalement, pour, comme tu dis, aller vraiment chercher son tempo tour 1 avec la forêt. OK. Puis c'est quoi mettons, les piliers de ce deck-là, selon toi? C'est quoi les cartes qui font que ce deck-là se tient ensemble?
Vraiment, moi j'ai comparé ça l'autre fois, c'est juste un peu extrême, mais j'ai comparé le Warden of the First Tree dans ce deck-là comme un Elvish Mystique pour gagner une dévotion de la dernière rotation.
OK.
Ça fait tellement que le deck se tient, puis est tellement plus agressif parce que souvent les gens, tour 1, ils vont fetch, puis vont tout jouer beau, puis ils vont passer le tour, vont jouer un 2 drop, mais en se prenant 3 au deuxième tour, ils n'auront peut-être pas un bloqueur pour le à 3-3 au deuxième tour, ils vont reprendre 3. Donc, tu vas avoir deux fetch. Souvent, les gens commencent à 12, 13 quand ils affrontent un Warden of the First Tree.
Ouais.
Souvent, tu peux faire un Warden, deux Pont, trois Nissa. Ou Deathmiss Raptor, ça fait tellement des choses incroyables. Là, les deux, il faut qu'ils soient gérés. Des drops en cost command pour combattre les autres créatures, les bloqueurs, enlever les bloqueurs, enlever les enchantements. Des Seal Crap sont rendus tellement populaires que drops en cost command détruit tout ça. Fait que c'est comme le deck qui. Il prend en fait que la metagame est comme préparée, mais mal préparée pour ce deck-là.
OK, ouais. Fait que, selon toi, c'est ça qui fait que ce deck-là arrive à être dans ta face. Puis est-ce que ce serait au point que si j'ai une main potable, mais sans Warden, est-ce que c'est auto-mulligan quasiment? On veut vraiment ça tour 1?
Non, parce que tu as beaucoup de drops. Tu as des Angerback, des Silkcrab, des listes qui jouent Avatar de Resolute. C'est pas tout le monde. Ça commence quand même à être. De plus en plus populaire, mais c'est pas un deck qui a absolument besoin du Warden, mais ça donne tellement de grosses avances.
Okay.
C'est comme quasiment l'inverse. Aussitôt que tu as un Warden, tu gardes quasiment la maniaque.
Ok, ouais. Okay. Puis là, je sais pas, est-ce que, vu que c'est une carte verte agressive, dans la metagame en ce moment aussi, il y a un deck qui nous vient du standard précédent et qui a survécu, qui est Atarka Red, qui est plus un deck mono-rouge qui splash du vert. Mais est-ce que c'est une carte qui a sa place dans un deck comme ça ou vraiment pas? On sait vraiment plus mono-rouge avec du vert pour.
Ouais, c'est le problème de Warden, c'est qu'il faut du blanc ou du noir pour.
Ouais. Pour le ouais.
Que non, il faudrait jouer John, ça se fait, mais. Mm-hmm. Pas vraiment envie d'avoir une forêt tour 1, là. Tu veux vraiment jouer un Swisspeak ou un Zurgo ou
un carte. Dans ce cas-là, l'autre shell dans lequel il pourrait être joué, ce serait Abzan, mais Abzan a plus tendance à être contrôle, mais des versions plus aggro d'Abzan qui en jouent. Est-ce que tu penses qu'il est vraiment plus efficace pour les raisons dont tu me parlais, pour arriver de la forêt tour 1 dans Green-White?
Ben oui et non. Dans Abzan, il joue aussi en 4, mais qui va des fois arriver, c'est de ne pas avoir accès à une forêt tour 1.
Ah ouais.
C'est quand même rare, mais tu vas peut-être avoir quand même des mains pas de forêt tour 1 ou pas être capable d'activer tour 2.
Ok, ouais.
Ouais. C'est très rare, mais tu as comme le petit détail qui est ajouté qui fait que c'est comme moins explosif. Puis le deck va dans d'autres directions aussi, un peu là, en ayant besoin de blanc, vert, noir, tour 3. Et des fois, faire un tour avec ta mana base pour pas être capable de caster quelque chose.
Ouais. Puis, Green-White, moi, une des choses que j'ai remarqué, c'est la résilience au removal. On dirait qu'il y a toujours quelque chose sur le board. On dirait que même s'il y a du removal, par exemple, contre un autre deck dont on va parler un peu, qui est, mettons, Esper, on dirait qu'il y a vraiment la résilience vient de où dans ce deck-là? C'est à la résilience au removal? À cause des Den Protectors qui ramènent des cartes, les Deathmiss Raptors?
Ben, c'est le fait qu'il peut commencer tour 1 à t'attaquer. Déjà là, et ça te prend de quoi toujours à réagir à ses cartes parce que tu peux pas vraiment attendre un Wild Slash qui ait 4 mana pour tuer le Warden parce qu'il peut faire Fight ou de Dromacos Command, Protège, Pont. Il faut vraiment les tuer toujours au tour où ce qui joue presque.
Ouais.
Angerback Walker qui, sans être exilé, c'est que du positif, peu importe à quel nombre que tu joues, tu peux toujours être dans le positif. Deathmiss Raptor qui est presque pas gérable en combat, qui peut fighter des bloqueurs, qui revient toujours avec toutes les morphs, mais les versions où ils sont rendus à jouer 10 morphs. Là. Ils jouent 4 Den Protecteurs, 4 Deathmiss Raptor puis des Den Dragon Slayer. Fait qu'aussitôt que tu t'empêches une de ceux-là, ça ramène tout le nombre de Deathmiss Raptor qu'il y a dans ton graveyard.
Ouais,
le protecteur peut ramener des cartes comme Nissa, Gideon, Dromacos Command, Angerback Walker. Ça ramène des cartes qui sont aussi value, qui sont aussi Des deux pour un. Wigmatrock, ça prend juste une attaque que tu peux suicider ton petit bonhomme dans un bloqueur, jouer Wigmatrock, puis il y a tellement rien pour gérer ça dans le format. Tout le monde joue Raging Flames, ça fait pas plus. Cat Gédéon, qui fait. C'est comme le nouveau Xenagos, il met des 2-2 à toutes les tours, puis après, t'es mort.
Ouais. On a vu vraiment que c'est une carte qui a vraiment brillé là, quand même, là, parce qu'elle était jouée dans plein, plein, plein de decks. Donc, vraiment, une carte très, très polyvalente là, parce que son casting cost est parfait pour les decks qui sont plus sur la curve. Et ça fait qu'un deck qui, par exemple, joue trois couleurs, a quand même le temps de se monter, d'avoir deux blancs assez facilement pour le caster. Honnêtement, carte quand même impressionnante. Gédéon, là. Carte très forte, très utile. Mais là, on voit donc les cartes clés. C'est en fait la résilience qui semble être une de ses forces, le tempo. Ce serait quoi la faiblesse de Green White pour toi? Contre quel deck que ça peut être de la difficulté dans ce que tu vois? C'est quoi l'angle que ça prend pour battre ce deck-là?
C'est quand même faible aux créatures qui volent.
Ouais.
Sans les spells, puis il en joue comme 6 des spells dans le deck. Une 10 à 10, ça dépend des versions, là. C'est comme assez faible au Mantis Rider, au Dragonlord Dogitaire. Les cartes qui sont super grosses, flying, rapides, qui tuent en 2-3 tours. Ça y a absolument un Gerback Walker qui meurt. C'est quand même assez faible à la curve de Removal Wild Slash, Wild Slash, puis, ou genre Wild Slash Jace, Mantis Rider. C'est comme, t'es capable d'enlever leur premier drop, de mettre une créature qui n'ont pas le choix de gérer, et ensuite de mettre une créature qui attaque, c'est quand même une bonne angle. Mais le deck en général, il n'y a comme pas beaucoup de failles. Il y a quand même un bon match-up contre les decks super agressifs parce qu'ils mettent plein de petites créatures et des life gain qui arrivent de temps en temps pour aucune raison. Le Wigmatrock, Warden qui est rendu au deuxième mode, de Dromoka Command qui protège d'un removal. Fait que il y a tout, un peu tout pour lui, mais c'est ça, le flying, c'est leur gros problème.
Et là, ce que tu m'as décrit un peu comme son problème, ça tombe mal un peu peut-être en ce moment pour choisir, disons, ce deck-là. Mettons qu'on se dit qu'à la fin de l'épisode, je vais me choisir un deck pour jouer au Grand Prix Québec. Moi, bon, mon problème que j'ai en ce moment, c'est que je pense que son match-up contre Dark Jeskai est peut-être pas écœurant. Est-ce que ça se peut ou ça a l'air de. Je sais pas que ça a l'air de quoi, mais Dark Jeskai souvent va avoir une belle suite de removal pour le début du match. Va être capable de se mettre un Jace sur la table puis le protéger un peu, sinon juste le transformer. Avoir des créatures qui volent pour attaquer. Il y a certaines même des versions, là, je me rappelle, je pense que c'est la version de. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Est-ce que c'est pas John Finkel qui jouait, là je ne connais pas le nom de la créature, mais celle qui met une 5-5 flying, là, à ton
Ouais.
appui.
Ben, c'est pas mal toutes les. On peut faire la transition un peu vers Jeskai
Ouais.
aussi. Pas mal tout le monde en joue dans Jeskai, au moins un. Des fois, il en joue même un deuxième dans le side.
Ouais.
Parce que tu vas jamais. En tout cas, si on le fait, ça va mal, là, mais de le runner tour 1 ou 2.
Ouais.
Tant qu'à un moment donné, on va dire, OK, je suis rendu à 5, j'ai un mana de loose, je vais le faire, je vais le jouer pour obliger ton adversaire à gérer.
Il peut passer un counter spell.
Ouais, un remover, il n'y a pas le choix à faire parce que sinon ça va mal passer, mais c'est sans la carte du Tice Command, le deck, la carte en tant que telle serait jamais jouée. C'est pas jouable parce que personne ne voudrait juste en jouer un, puis
Puis le
encore
perdre.
quatre dans son deck, là.
Ouais.
C'est une carte qui coûte comme 6 finalement, là, parce qu'il faut que tu aies 6 lames.
Ouais.
Mais avec Cogitize Command, tu en as 5 dans ton deck. Tu peux le discarder avec Jace. Tu vas le ramener fin de tour quand tu as 6 lames. Tu peux te protéger avec un dispel pour un removal. Puis des 5-5 à tous les tours, ben, c'est pas mal bon.
Faut que tu répondes ça.
Il n'y a pas
Ouais.
grand-chose à faire contre ça. C'est ça, tu sais. Puis si on compare le Green White avec Jeskai, ben. Le fait que Jeskai ait tellement une curve agressive, mais qui est autant comme redondant que Green White à cause des Jace, ça fait que le deck est encore aussi, sinon plus, comme constant.
Ouais.
Parce que tous tes spells font quelque chose, c'est la majorité des 2 pour 1. Maintenant que c'est plus juste comme Jeskai, comme bleu, blanc, rouge. Avec la mana base, c'est la même chose que Green White qui joue à Abzan.
pour jouer à Zan.
Il faut aller chercher des laines de couleurs qui vont être bleu-noir ou rouge-noir pour avoir accès à ton noir sur des fetch pour jouer des cartes. Mais Jeskai peut faire ça, mais utilise la quatrième couleur.
Ouais, c'est
Donc,
ça.
maintenant, on va jouer noir pour des cartes comme Cracking Doom qui gèrent des créatures qui étaient auparavant genre, ingérables pour Jeskai. Que ce soit un Dragonlord Urshtai, les cartes, les plus grosses créatures de l'autre côté, là. Ça peut être une Mantis Rider, ça
Ouais,
peut être.
ça dépend c'est quoi, mais ouais.
Puis ça fait qu'il y a certains Planeswalkers aussi qui sont presque pas jouables à cause de Cracking Doom ou vraiment diminués, comme Sorin. Sa grosse faiblesse, c'était Cracking Doom avant, mais personne jouait Mardu parce que Mardu manquait quelque chose dans le deck,
Ouais, il
puis
manquait
c'était
quelque chose.
la Mantis
Ouais, c'est ça. Puis
Rider.
Jace.
C'est ça. Mais là, maintenant qu'on peut jouer ça, on peut juste comme tuer son 2-2, fin de tour, faire 2 au Sorin, Sorin est mort.
C'est ça, parce que c'est quasiment Mardu Splash Bleu, finalement, plus que Dark Jeskai,
Plus ça avance,
là.
plus c'est rendu quasiment ça. Parce qu'au début, c'était vraiment comme Jeskai avec 4 Cracking Doom, puis on arrête là.
Ouais.
Mais de plus en plus, là, tu sais, si je regarde
Des
des
du
listes,
reste dans le side,
des
c'est bien, là.
puis même là, il y a des versions aussi. Parce que là, Dark Jeskai aussi, il faut se dire, il y a comme, présentement, il y a comme 3 grosses versions. Puis ça, ils font des choses complètement différentes. Il y a la version Angerback Walker avec Gideon. Ils font un peu plus token, anthem, plus un, plus un. Il y a les versions avec les Soulfire Grandmaster qui sont comme plus pour aller late game, puis que late game n'a presque pas de deck qui sont capables de les battre. Puis il y a les versions qui sont rendues quasiment que mardus, qui jouent. Des fois même, ils vont jouer un Secure the Waste, là, juste pour être token, puis qui jouent Butcher of the Horde dans le deck, en plus, puis Sorin. Fait que c'est vraiment comme mardu avec 4 Jace.
C'est ça, dans le 4 Jace,
4
puis
Jace,
un
4
Mantis
Gideon, 2
Rider,
Sorin,
genre.
puis 9 Rider. C'est comme. Mais là, genre, tu sais, je regarde comme la liste là, que personnellement, ce serait. Je vais vous dire, tu sais, ce serait vraiment là que je jouerais si j'avais à aller à Québec. Là. Je regarde les spells, là, puis c'est presque 50-50. Un Outer Hand, tu sais, on s'est rendu là des Outer Hand, des Colagan's Command, Crackling Doom, Tascure, Duress.
C'est
C'est
le noir domine.
presque un noir dominant. Il n'y a même plus de Jeskai Charm. Il n'y a même plus la carte qui s'appelle Jeskai dans le deck Jeskai.
Puis ça tout, pour toi, ce serait peut-être la liste qui serait bien positionnée pour en fin de semaine, selon toi?
Ben, c'est encore bien positionné autant que ça l'était avec le Pro Tour. Là. Je pense que c'est un deck qui fait à peu près tout. Il est super résilient, il y a des réponses contre toutes les cartes les gens peuvent mettre devant toi. Tu as accès à 4 couleurs, donc tu as un plus grand éventail de cartes à choisir. Et le deck a quand même ce qu'on appelle un goldfish, le jouer tout seul qui tue rapidement quand même s'il n'y a personne qui empêche ton game plan. T'sais. Fait que sur un tournoi à 15 rondes, je pense qu'un deck comme ça, c'est ce qu'il faut jouer. Puis c'est pas le seul deck, je pense, qui est bien positionné, mais je pense que ce deck-là, il y a beaucoup, beaucoup de potentiel. Puis il peut prendre les gens un peu à contre-pied, juste parce qu'ils ne savent pas exactement c'est quoi les cartes que tu joues, parce qu'il y a trop un grand éventail de cartes dans ton deck, là.
Ouais, puis moi, écoute, là c'est Jeskai mid-range, le deck que Tamada jouait, qui est allé en finale. Moi, ce que j'ai adoré voir, puis je suis pas mal certain que c'est une carte qui a sa place dans le sideboard de Dark Jeskai, c'est Mastery of the Unseen. Je sais pas si t'as écouté le match contre Jonathan Cole, mais la game 2, là, quand il a mis ça sur la table, c'était fini. Finkel ne pouvait plus rien faire. C'était tellement puissant contre Jeskai, là, c'était débile. Fait que, je pense que les decks qui jouent des cartes qui vont pouvoir gérer autant les enchantements que d'autres permanents sur la table, là, ça va vraiment, vraiment valoir la peine d'avoir ça. Parce que Mastery of the Unseen, sérieusement, c'était brutal contre Jeskai, là.
Les Jeskai, vraiment, ils ont un problème contre les enchantements. C'est pas nécessairement un problème, mais c'est comme une grosse, grosse faiblesse. C'est comme souvent les Master of the Unseen, Evolutionary Leap, ces cartes-là, vont faire que il y a beaucoup de cartes qui vont être comme blankées, hein, si je peux dire, qui vont invalider qui vont invalider le removal de Jeskai. Mais c'est pour ça aussi que dans Jeskai, il y en a au moins un dans le les miroirs.
Ouais, c'est ça.
Ça se fait pas dispel. Et il n'y a pas rien dans le deck qui tue un enchantement.
Ouais, c'est
À
ça.
part dans le sideboard où ce que les gens commencent à jouer Philidor Cobb.
Ouais, mais tu sais, moi j'aime bien le deck qui utilise des Outer Hand. Honnêtement, je pense que Outer Hand est vraiment bien positionné en ce moment. Tu sais, à 4 de mana, oui, c'est beaucoup, mais en même temps, tu joues un deck qui peut très bien garder du mana untappé à certains moments clés du match. Ça peut être autant soit du Counterspell aussi. Il y a des clés là, je pense, qui sont intéressantes parce que moi, en tout cas, Master of the Unseen, c'était tellement dominant que c'est sûr qu'il y a du monde qui ont pris des notes là, parce que, sérieux, tu voyais John Tinkle jouer puis il pouvait rien faire.
Il n'y avait rien à faire, surtout que
Ouais.
dans son sideboard, comme je disais, là, il y a pas de fil d'or comme. C'est une carte qui commence à être jouée pas mal dans les decks de Jeskai dans les sideboards. Un, c'est une créature, ça peut attaquer, évidemment. Ça gère les Master of the Unseen des Jeskai adverses après le sideboard et ça commence avec Ogitize Command.
Ah
Donc,
ouais,
dans les.
c'est vrai. Ouais, fait qu'au moins tu peux aller chercher le value.
Ou si on a à le discarter avec un Jace. On
Ouais.
peut fin de tour Ogitize Command, ramène ça, bloque une créature, sacrifie ton Master of the Unseen. Fait que c'est comme une carte qui commence à prendre la popularité, puis ça n'a pas le choix parce que c'est comme une grosse faiblesse, là.
Oh, ouais.
Capable de voir c'est quoi les faiblesses du deck. Puis comme je disais, là, la liste que moi je jouerais, il y a avec l'Outer Hand, c'est que t'as jamais juste une fois le spell dans ton deck, t'as 4 Jace.
Ouais, c'est ça. Yeah.
À le ramener en quelque part puis l'avoir deux fois dans une même game, même si t'en as juste un dans ton deck là.
Ouais, puis Jay, c'est une des raisons pourquoi je pense que ça prend du bleu dans ton deck, là. Honnêtement, il y a plusieurs personnes qui pensent que c'est la carte du format, c'est la carte qui est en train de vraiment définir le format, c'est Jace. Puis effectivement, quand tu la vois travailler, c'est tu fais, OK, ouais, tour 3, t'as un Planeswalker, là, avec les fetch lands, là, c'est que c'est réglé, là, putain, tu sais, c'est dominant, là.
Ouais, c'est pas un problème parce que c'est il y a tellement de réponses à cette carte-là là, en même
Ouais,
temps,
c'est
mais
ça.
s'il faut que tu l'aies parce que
C'est ça.
ça dégénère assez vite quand ton adversaire fait 3 fetch lands avec un Wild Slash sur ton attaquant, puis au tour 3, il y a le tap, il met un Jace, puis flashback Wild Slash pour tuer ta seule créature. La game est finie là.
Ouais, c'est ça, exactement.
Et tu
T'sais...
vas attendre qu'il n'y ait plus besoin de rien jouer, il va s'asseoir sur le Ogitize Command. Du Jace sur les removals, sur les dispels, puis en ayant 5 cartes dans le graveyard, ben ça fait que des two times se casse tour 4.
Ouais, puis...
Joue rien, des two times, il ramène plus de cartes dans ses mains, puis c'est fini. Toutes des boules par là, juste à cause du Jace qui a flip tour 3 là.
Ouais, exactement. Fait que dans le sens où ça définit le format, je pense pas que c'est une carte qui est comme... C'est ça, elle est gérable, c'est juste, elle force une réponse. Donc, vu que ça force une réponse,
C'est ça. Le format, il tourne autour de ça. Autant que les gens disaient que ça tournait autour de Siege Rhino, dernière rotation, là, autant que les gens, ils voient que ça tourne autour de Jace. Puis c'est pour ça que ça vaut 100 $, là. Parce que les gens ont pas le choix de soit le jouer, soit jouer un deck qui va battre Jace.
Ouais, tout à
Ou
fait.
jouer les deux.
Ouais, c'est ça. Puis dans les autres options qu'on a, fait que Dark Jeskai, Green White, Gamoth, dans les autres options qu'on a, est-ce qu'il y a justement des decks qui ont des réponses? Par exemple, là, on a vu que ce qui formait la metagame, il y avait notamment, on a évoqué Esper Dragon, on a évoqué Abzan et Dark Red. Est-ce que dans ces trois decks-là, il y a des petits spells comme ça qui vont aller gérer des Jace en début de game, qui vont mettre de la pression sur le gars qui est en train de fetcher, puis de penser d'aller late game? Est-ce que c'est un. D'habitude, les decks aggro ont des beaux match-ups contre les decks plus contrôle. L'affaire, c'est que je suis pas sûr que Dark Jeskai, c'est vraiment contrôle. C'est une espèce de contrôle slash tempo.
C'est quand même assez. Le match-up est assez simple. Je te dirais que les Dark Jeskai en général, les decks juste Jeskai qui n'ont pas de noir vont jouer des versions qui vont être un petit peu plus faibles à Tarka. Parce que souvent, ils vont jouer des Angerback Walker avec les JDA. Et oui, c'est bon, mais il manque. Il y a comme. C'est Soulfire Grandmaster qui tiennent le deck. Puis souvent, les decks Jeskai purs, ils vont jouer un petit peu moins de Ogitize Command aussi pour maxer sur les Jeskai Charm et les Wild Slash. Mais la Tarkorelle, présentement, ils sont comme un semi-combo, là. Il joue, comme dirait Paulo Vittor d'Amoderosa, c'est fait. Lui, il comparait son deck à Tarkorelle à Splinter Twin.
Ouais, ok.
Il disait qu'à 4 mana, il peut te tuer quand t'es à 18, là.
Non, ok.
Les gens maintenant, ils jouent des Become Immense, le
Become
Tesseract.
Immense, puis les. Ouais, c'est ça. Dragons.
Temur Battle
Temur
Rage.
Battle Rage, ouais.
Souvent, ce qui se passe avec toutes. Surtout qu'eux, ils jouent 12 fetch. Fait qu'ils ont toujours plein de cartes dans le graveyard. Puis tour 4, ils peuvent juste faire comme Zurgo Dash, paye 1 pour Become Immense. Puis là, t'es comme, ok, c'est juste. J'ai ressorti sa créature et retourné dans ses mains. À 5, tu as 18 de vie parce qu'il double strike. Là.
Ouais,
T'as rien fait, t'es à temps, puis
ouais.
lui, il a rien fait.
Ouais.
Mais
Ça, c'est
le
le dream
match-up.
draw. Ouais.
Oui, mais ils sont rendus à jouer 4 de chaque. Fait que
Ouais.
ça arrive quand même assez souvent, mais
OK.
le problème qu'ils ont contre Jark Jeskai, c'est que souvent ils vont avoir des Soulfire Grandmaster. Avec toutes les Wild Slash, toutes les Fire Impulse, c'est toutes des cartes qui vont comme quasiment faire du 3 pour 1 parce que là ils gagnent de la vie en
Ça devient
plus.
du lifelink, ouais, c'est ça.
Ils sont pas capables d'avoir le Wild Slash pour le Soulfire, la game est quasiment finie.
OK.
Et
Donc,
aussi
si tu joues
tactique.
une version de Dark Jeskai qui n'a pas les Soulfire main board, ça vaudrait peut-être la peine de t'en mettre un peu sideboard.
Ben,
Dépendamment de ce que tu penses qu'il va y avoir comme metagame, finalement. Si tu penses qu'il va y avoir gros de la Tarka Red, t'en mets peut-être main board.
Ouais, il faut vraiment choisir ton game plan, mais ce n'est pas une carte que tu vas avoir dans le sideboard.
OK.
Dans le sideboard, tu as des cartes comme Surge of Righteousness, qui comme 43 pour 1 contre Atarka,
Oh.
mais c'est comme une même Battle Rage, puis tu détruis sa créature, puis tu gagnes 2 de vie.
Salut,
Il y a ça,
scoop.
il y a des Radiant Flames, des Surge, et des petits spells dans le sideboard. Maintenant, les decks jouent quasiment. Majorité joue 4 ou 5 chocs, le Fire Impulse, le code comme un choc. C'est comme souvent les decks Atarka, ils ont comme pas le temps de commencer contre
Ouais.
le Dark Jeskai, mais ils ont quand même un match-up raisonnable contre les restes. Ça va
Okay.
super vite, c'est super agressif, ça prend partie. Tu fais que les gens fetchent à peu près 5 lands sur 6.
Ouais.
Souvent 4 sur 6, 5 sur 6 dans certains match-ups. Fait que le 4 de vie, 5 de vie que tu perds là, c'est une attaque de. C'est une ou deux attaques de moins de créatures là. Fait que le deck il prend parti pour ça, puis super agressif. C'est quasiment plus agressif que ça l'était avant, mais
Ouais.
ça a, les match-ups sont plus polarisés. Des
Ouais, c'est ça.
match-ups qui semblent quasiment ingagnables, comme on a pu voir au Pro Tour, là, Atarka contre Dark Jeskai. Là, tout le monde disait que c'était le match du siècle à cause des joueurs, mais le match a duré 7 minutes. Là.
Ouais.
Soulfire, puis il passait ses tours à faire juste des chocs sur ses créatures, puis des cracking doom quand il faisait Become
Ouais.
Immense.
Ouais. Fait que dans le
C'est
fond, ouais.
comme. Ce match-up-là, il est très très mauvais, mais le reste, pour le reste, ça va bien là,
La dark, là.
pour Atarka, parce qu'il y a beaucoup de decks aussi. Là, on parle des gros decks, mais il y a beaucoup de gens qui jouent pas ces decks-là.
Oh, ouais.
Puis Atarka Red a des bons match-up contre des decks qui
On
sont
doute.
pas. Tier 1 ou comme 1.5, comme on dit des fois, là, comme juste pas assez mainstream pour être.
Vraiment tweaké, là, 100%, là. Ouais.
Mais ça a
Mais
des super bons
puni,
matchs.
là. Ouais, c'est ça.
Souvent, tu vas être mort au 4, là.
Ouais.
T'es pas
Puis
prêt avec.
justement dans les decks qui sont peut-être des fois justement on aime avoir quelque chose qui tu sais on appelle ça les rogue decks ou les fringe decks c'est comme les decks il y en a certains qui aiment pas trop ça là, jouer les gros decks dominants puis qui veulent essayer d'aller voir plus sur le chemin d'accotement il y a quand même il y a trois decks moi qui ressortent pour quelqu'un qui voudrait plus aller vers un deck qui laisse de l'espace pour créer un peu ou qui sont un peu plus originaux. On a aujourd'hui, Pascal Ménard a sorti un article sur bleu-noir aristocrate, donc blue-white comme sacrifice un peu. Moi, je connais pas le deck, je l'ai pas joué beaucoup, j'ai lu son article, je vois ce que ça veut faire, mais ça semble être un deck qui demande une prise de décision assez intense. J'ai pas l'impression que c'est un deck dans les mains de n'importe qui peut bien réussir. Ça a l'air d'être quand même très complexe. Donc, je suis pas sûr que ça vaudrait la peine, si tu n'as pas pratiqué, d'aller te pointer au GP de Québec avec ce deck-là. Mais si tu n'as plus de pratiquer et que tu sens que. Je sais pas si toi, tu connais un petit peu le deck, puis pour en parler un peu, voir qu'est-ce que ça essaie de faire, puis contre quoi ça peut peut-être être bon, mais je sais pas. Moi, personnellement, j'ai pas d'expérience avec. Puis il a été très peu joué, mais je pense qu'il y a Chris Calcano, je pense qu'il jouait et qu'il a bien fait avec. Donc, le deck peut gagner.
Le deck en général, c'est une team qui avait pensé au deck, Puis finalement, je pense qu'il y en avait juste quatre ou six, je crois, je l'ai lu
Ouais.
tantôt, je ne sais pas, mais qui ont décidé de le jouer. Puis comme Pascal Ménard a décidé de ne pas le jouer parce qu'il était comme pas certain. Et tout le monde qui l'ont joué ont fait des bons scores, là. Ça, je pense.
Ouais, c'est ça qui a joué à Tarka, justement.
Mais c'est ça, c'est un deck qui, comme je l'ai pas joué en construit, mais je l'ai beaucoup joué en unité, ce deck-là.
Ah ouais,
Parce que c'est une pile de communes, puis d'une commune de Origins, en
ok.
vrai,
Ouais,
là.
c'est vrai, ouais.
Ce deck-là, c'était comme un all-star en unité Origins, de Nanticoas, Sky Quarter Rogue. C'est quasiment un deck combo en général, là, aussi, ce deck-là. Si, tu sais, je peux regarder, là, je regarde la liste vite, vite, là, puis c'est beaucoup de signes noirs de communes, là. C'est
Ouais.
des cartes qui sont hyper synergies une avec l'autre. Puis, tu sais, c'est que ça se base vraiment comme sur le combo Nanticoas avec Water Road,
Ouais, que tu perds une vie.
qui rend ton Nanticoas imbloquable avec les deux Totters de Water Road.
Ouais.
Fait que toutes tes créatures dans Nanticoas, puis t'attaques pour 30.
Ouais, imbloquable.
C'est comme, ouais, c'est ça, c'est comme le combo, là. Mais
Ouais.
le deck, il joue bien parce qu'il est super redondant avec un Gerback Walker, le Tsoch Champion qui est toujours en train de revenir, Subtract Sun, qui est comme deux créatures, qui marche bien avec Zilapar Cutthroat aussi, qui est comme le nouveau Blood Artist.
Ouais, c'est ça, celui que tu gagnes. Ouais.
C'est comme un deck que, en attaquant avec le Nanticoas, des fois, il peut te manquer comme 4 ou 5 points de dégâts, mais le Zilapar Cutthroat en jeu,
Drain.
les puis il t'attaque pour l'étal. Fait que c'est souvent un deck, il faut que tu comptes tous les points de vie possibles, puis des fois ça arrive là, toujours pile.
Flush là, avant, mettons. Puis, okay, puis mettons que tu joues contre quelqu'un qui joue ça, là, puis que toi tu joues, je sais pas, Dark Jeskai, il faut que tu gères le Nanticoras au plus vite, dans le fond. C'est ça, sa win condition la plupart du temps, dans le fond. Okay. Sinon, un autre deck que j'ai trouvé intéressant, il y a eu un deck tech. Le deck tech, c'est quand il nous présente un peu avec quelqu'un qui a amené un deck intéressant, il nous présente comment il a créé son deck, c'est quoi les cartes. Il y a eu un deck tech avec Sam Black, puis il parlait d'un deck qu'il avait créé qui s'appelait Bent Token, puis il avait l'air d'être très enthousiaste sur le deck. Personnellement, je ne le connais pas beaucoup encore là. Ce deck-là, c'est qu'est-ce que ça essaie de faire, c'est quoi les cartes clés Bent Token?
Ben, je vais parler un peu de ce qu'il a fait, par exemple, parce que
Ouais.
on peut dire que oui, il y a eu un deck tech, mais des fois, c'est juste parce que le deck est original, puis ils
Ouais.
veulent montrer des decks qui sont pas joués.
Ouais.
Mais là, il y a quatre personnes qui ont joué, c'est comme l'équipe de Sam Black, avec je me souviens, Cohen, puis deux autres que je me souviens jamais de leur nom,
Deux.
mais ça va peut-être me revenir. Mais ils ont décidé de jouer ça, c'est souvent Sam Black qui monte les decks avec
Ouais.
Cohen. Il y a toujours des idées farfelues, mais ça marche toujours. Cette
Ouais, il est
fois-là, on n'a
fort.
pas parlé de tout le tournoi. Ils ont quand même fait des bons scores en général, mais en standard, ils ont tous fait 8-2.
Ok, solide.
Il y en a trois qui ont fait 8-2, puis l'autre que je me souviens pas de son score, qui est un petit peu moins bon, mais je pense que lui, c'est son draft qui l'a pas mal tué, là.
Ok.
Mais le fait que ça fasse 8-2, qu'on n'entende pas parler du tout, doit faire
C'est
que
bon
le deck
ça.
a probablement quelque chose dedans. Mais si on
Ouais.
regarde la liste, là, ça joue des tokens, des cartes qui t'aident à te rendre des tokens, puis du removal. Là. Fait que c'est Gerback Walker avec des Elvish Visionnaire pour les
Ouais,
removals.
oui, c'est vrai. Il splash vert quasiment juste pour Elvish
Splash
Visionary,
vert
il me
pour
semble.
ça, puis Elvish Visionnaire, puis des cartes de sideboard.
Ouais.
Le main, c'est que c'est presque mono white avec Catch Deon, des Waymate Rock. Puis il y a la nouvelle carte de. Ben en fait, il y a deux nouvelles cartes dans le deck, trois nouvelles cartes même. Il y a quatre fois le nouveau Retreat blanc. C'est une commune de Battle for Zendikar, c'est Landfall. Ça coûte quatre. Quand un land rentre en jeu, tu as le choix de soit mettre un allié blanc, 1-1, ou donner plus un à un
Ah
autre land.
oui, c'est ça en limité, c'est fort, mon gars.
Ça se base en gros sur cette carte-là. Ça joue 25 lands. C'est pas énorme, mais c'est assez pour faire que souvent tu vas avoir à faire comme 2-3 tokens, puis le quatrième land va faire plus 1. Ou tu vas
Ouais.
garder le land pour faire plus 2 à ton équipe, parce que le deck joue 3 Secure the Waste. Fait
Ouais,
qu'en
c'est ça.
instant, tu mets 4-5 soldats, tu mets un fetch land, tu fetch, ils sont tous plus 3, de plus 2, plus 2,
Ah ouais.
avec soudainement 15 de power on board.
Ouais, ça a l'air intéressant, ce deck-là.
Plus si tu as des emblèmes de Gédéon en plus de ça, ça fait que tes créatures peuvent être fait tôt, t'en fais 5, t'as une tape, t'as 20 power, il est mort.
Ouais.
Ça sort de nulle part, ça joue. Il y a beaucoup de removals, là, Seal Crab, Stays the Snare, Planar Outburst, Quarantine Field, des cartes qui vont t'aider à te rendre à Secure the Waste, Retreat de Nerea pour te faire des gros gros boards, puis tuer avec des emblèmes de Gédéon.
Ouais,
L'emblème, c'est à peu près ça qui fait le deck. Je l'ai jamais joué, mais ce que je peux comprendre, puisque j'ai vu des gens qui l'ont joué, c'était ça que ça faisait.
ouais.
Retreat, c'est vraiment une carte qui est comme clé à faire beaucoup d'emblèmes en fait. Ça fait très peu de créatures, beaucoup d'emblèmes. Dépendamment des match-ups.
Ouais, puis c'est comme tu dis, c'est que c'est un deck qui, en standard, on l'a pas vu dans les dans le top 8 parce que les gens qui le jouaient ont pas très bien fait en limité, mais. C'est un deck qui pourrait très très bien peut-être prendre de la metagame de cours à Québec. Je ne serais pas surpris de voir ce deck-là très bien performer, peut-être même s'approcher d'un top 8 parce qu'effectivement, il semble être bien positionné. Je l'ai pas vu vraiment, je n'ai pas vu les matchs, fait que je ne sais pas si ça se positionne comment contre Dark Jeskai parce que je pense qu'en ce moment, personnellement, je pense que c'est ça qu'il faut que ton deck fasse, il faut que ça puisse battre Dark Jeskai.
Je pense que ça. J'ai pas fait le match-up, j'ai pas vu le match-up non plus jouer. Mais si je regarde juste carte pour carte, je pense que le deck est fait pour battre Dark Jeskai en général. Avec les 4 Seal Crab, les 2 Seize Snare, des Angerback Walker, puis 3 Wingmaid Rock avec des Gédéons. Puis tu te bats, puis ton main kill condition, c'est des enchantements.
Ouais, c'est parce que le removal de Dark Jeskai, c'est beaucoup du 1 pour 1 quand
Ça.
même. Ouais.
Fait
Fait que,
que.
ouais. Plus tu vas large.
Ouais, fait que plus tu vas large, puis Secure the Waste, c'est sûr que c'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux contre Jeskai, parce qu'il joue des dispels, mais s'il n'y a pas de dispels, ben, Secure the Waste va peut-être gagner un game à lui tout seul, parce qu'il n'y a pas beaucoup de créatures dans Jeskai, là. C'est comme un deck qui est vraiment bien positionné contre Jeskai, c'est un deck qui est vraiment bien positionné contre Green White, parce qu'il y a tous les Exile Effects, le Seal Crab, Stasis Snare, Quarantine Field, encore une fois.
Ouais, c'est ça, puis
Et
c'est clé, ça, contre Greenway.
ça a des match-ups qui semblent presque, pas ingagnables, mais presque. Si on regarde le sideboard, ça a 4 Surge of Righteousness dans le sideboard. Ça dit vraiment que le problème, c'est Mono Rouge ou Atarcored.
Ouais.
Parce que si on ne pige pas de Secure the Waste avec ce deck-là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de misère. Parce que tous tes spells coûtent 3, puis c'est tout un peu lent. Ça fait dur pour un. Les decks vont quand même jouer beaucoup de créatures l'une après l'autre. Fait que c'est
Ouais,
comme.
puis c'est toutes tes petites créatures en un, là, petite
C'est ça,
chambre, puis
il
il fait.
tout à prowess aussi dans Atarcored avec Atarcos Command en plus. Fait que souvent tu vas être comme un peu sur le back foot, puis tu vas toujours être en train d'essayer de répondre des cartes qui coûtent 1 avec des cartes qui coûtent 3. Et à part de ça, peut-être que ça a un moins bon match-up contre les decks Esper, parce que ça prend pas exactement beaucoup de solutions de battre des dragons, là.
Ouais,
C'est probablement.
effectivement.
Si. Il n'y a pas de dragon en jeu, les retreats puis les Secure the Waste peuvent probablement gérer là. C'est quand même un bon late game avec 4 Nissa Vassoitir. Les lames arrivent vite là, dans ce deck-là.
Ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça qu'il veut, lui. C'est ça qu'il disait, en fait, Sam. C'est dans le fond, le vert, il est là juste pour t'assurer que tu as tes triggers de landfall, genre tout le temps, tu sais. Fait que ton Visionary, c'est vraiment juste. Tu joues, tu piges, tu ouais, c'est ça, exactement, pour piger un land, c'est juste pour ça, là. Lui, dans sa tête, c'est des lands, là, tu sais.
Oui, ben c'est ça. Le deck a l'air d'avoir quand même beaucoup de potentiel là, en
Ouais,
ce
c'est
moment-là. Je suis
quand
en
même
train
intéressant.
d'essayer ce deck-là là, bientôt.
Ah ouais, c'est clair. Fait que sinon, on a aussi, si on reste dans les decks un peu d'accotement, de la voie d'accotement, il y a un qui a quand même bien fait, mais au Pro Tour n'a pas ressorti, c'est Bring to Light, différentes versions de Bring to Light. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce deck-là, mais à part que c'est un deck qui essaie d'abuser le fait que tu peux caster n'importe quoi. T'sais, si ton deck finit par trouver les bonnes affaires à caster, tu peux caster ce que tu veux. C'est un deck qui est plutôt sur le côté d'être contrôle. Donc, c'est un deck contrôle qui finit par capitaliser sur la carte Bring to Light ou sinon par jouer des gros bonhommes, pas des gros bonhommes, mais des Planeswalkers, des grosses cartes qu'il faut absolument avoir des réponses. Je pense que c'est un deck qui va toujours attirer une certaine clientèle. C'est tout le temps, c'est attirant d'avoir la possibilité de jouer la carte que tu veux. C'est sûr que c'est attirant pour plein de joueurs, mais je suis pas sûr qu'en ce moment, c'est un deck qui. Je pense pas que contrôle en ce moment ait les bons outils. Je sais pas, en tout cas, Esper a bien fait. Hein? Si on va. Tu regardais tantôt les statistiques quand on préparait l'émission, puis dans le. C'est quoi, c'est les decks jour 2 ou les.
Les decks qui ont fait jour 2, c'est sûr que là c'est un peu pas exactement tout basé sur le standard parce qu'il y avait quand même trois rondes de draft. Fait que
Ouais,
si il y en a peut-être qui ont fait un 2 en draft, qui n'ont pas réussi à passer jour 2, ça a quand même une bonne idée parce qu'il y a quand même beaucoup de rondes de standard, là. Le deck encore une fois, je pense que c'est le troisième pro tour de suite standard. Qu'est-ce que c'est comme ça? C'est Esper.
ouais.
Il y a le plus haut taux de conversion à 70,5% de conversion aujourd'hui. Il y a 31 sur 40, des 44 joueurs d'Esper, tout type confondu, là, que ce soit Esper Control, Esper Planeswalker ou Esper Dragon, qui ont fait jour 2.
Ouais, fait que si t'as amené dans ta portion standard, si t'avais amené un deck Esper, il y avait comme 70% des joueurs qui ont fait ce choix-là se sont rendus jour 2.
C'est ça. Puis si on compare, là, vu que je suis encore dans les statistiques, là, les decks qui ont le moins bien fait, on parle de Abzan avec 50%, c'est 17 sur
C'est peu.
34, qui est quand même vraiment, vraiment faible.
Ouais.
Et justement, du deck qu'on parle, là, eux, ils catégorisent à 4 ou 5 couleurs contrôle.
Ouais, bring to life.
Il doit y avoir beaucoup, là, il y avait 30 joueurs qui jouaient ça. Je serais pas gêné de dire qu'il y en avait probablement une vingtaine là-dessus qui c'était des decks bring to life, là. Fait un taux de conversion de 60%, ce qui est pas énorme, mais c'est un deck qui est tellement difficile à jouer parce que tu sais toutes tes couleurs, que tu saches exactement qu'est-ce qu'il te faut dans comme deux tours selon les situations. Puis là, des fois, vu que tu n'as comme pas beaucoup de laine de chaque, des fois ça tu veux aller en fetcher un, mais là tu l'as dans tes mains, mais elle rentrera pas, elle va rentrer, taper. Fait que là, c'est comme plein de casse-tête de mana, puis de quel spell qu'on met dans le deck, parce que toi, t'en veux juste un de chaque, des cartes que tu vas chercher avec Bring to Light. Mais en même temps, tes Bring to Light, c'est quasiment tes Siege Rhino 5, 6, 7, 8. Là.
Ouais, c'est
Souvent,
ça.
c'est pas gagné, parce que sinon, c'est toutes des cartes qui sont comme en 1, que c'est comme un Outer Hand, un Clock of Fate, un Languish, une ça, une ça. Mais le deck, finalement, si on regarde là, des listes en majorité, là, je prends une liste, n'importe laquelle, là, c'est 4 Siege Rhino, 4 Jace, 4 Abzan Charm, du removal quelconque, 4 Bring to Light.
Ouais, c'est
C'est des
ça.
4 autour qui sont comme en 1 ou 2, dépendamment qu'est-ce qu'il veut, là. C'est comme la liste que j'ai pris au hasard, là. Un Wingmate Rock, un Dragonlord Hogetide.
Ouais, ça doit faire des mains de pizza en tas ou des photos avec des mains et des comme
Une main avec forêt, île, montagne, Wingmate Rock, Abzan Charm, Fire Impulse.
ça.
Absolument rien casté à part un Fire Impulse, mais t'as une main qui est insane.
Ouais, c'est ça, exactement.
Faut que je fasse quelque chose là.
Ouais,
Mais
exact.
c'est comme pas. C'est pas un deck qui est intuitif, faut qu'il y ait beaucoup de pratique, qu'il soit ultra. Comme les cartes dedans, il faut qu'il soit exactement ce que tu as besoin pour cette journée-là.
Ouais.
Parce que s'il y en a une ou deux dans ton deck, c'est pas ça finalement qui aurait dû être dans ton deck. Parce que c'est pas les decks que tu avais pensé qui sont allés au tournoi ou c'est pas ceux que tu as affrontés.
Ouais.
Tu vas perdre une ronde pour rien à cause de ça. Puis là, ça va mal aller.
Ouais,
Puis
c'est sûr.
des fois, juste perdre une ronde comme ça, juste parce que c'est pas un match-up que tu pensais puis que ton deck t'es pas fait pour ça,
Ouais.
t'as plus beaucoup de games à perdre dans la journée si tu veux faire jour 2 d'un Grand Prix. Là.
C'est ça, exactement. Tandis que si tu as un deck qui est un peu plus rodé, qui va vraiment avoir une courbe, des réponses, du removal des créatures, tu sais, tu as plus de chances d'avoir un match qui va être régulier. Mais l'affaire aussi à laquelle je suis en train de penser, c'est que là, dans l'ancien standard, l'attention, comme tu disais tantôt, là, c'était sur Siege Rhino. Il fallait qu'on gère. Si ton deck ne gérait pas Siege Rhino, tu n'allais pas gagner. On pense que là, avec l'arrivée de Jace et de Battle to Zendikar, le focus s'est déplacé un peu plus vers Dark Jeskai, entre autres. Est-ce que sur Jace, ouais, exactement, plus sur Jace, le regard est sur Jace, est-ce que ça, c'est peut-être pas un moment où Siege Rhino va redevenir bon en fin de semaine, là? Comme, j'ai pas. Tu sais, Siege Rhino, c'est le genre de carte que si tu lui donnes un petit peu d'air parce que tu regardes d'autres cartes, tac, tu sais, c'est Siege Rhino, là.
Ça l'a déjà bien fait au Pro Tour. Oui, les gens sont préparés encore à avoir des Siege Rhino, mais c'est que l'attention s'est déviée vers Jace, mais les gens ont gardé les mêmes cartes qui tuent Jace, qui tuent des Siege Rhino, étonnamment. Les gens, ce qui était comme le gros focus, c'était le match-up Abzan contre Tatarka. Parce que Tatarka est rentré 4 Roast. Mais maintenant que il faisait comme un switch de Wild Slash pour des roasts. Quand il sidait. 4 pour 4.
Ouais.
Et là maintenant, ils ont encore accès à 4-4. Mais là, ils n'ont plus besoin de sider des roasts contre le deck le plus populaire parce que c'est des decks de Jace. Et
Ouais,
des Wild Slash.
ouais.
Fait que les decks, ils ont les mêmes cartes pour gérer. Ils ont encore les cartes pour gérer des Seed Rhino. Mais leur main est bon contre Jeskai.
Ouais, c'est ça. Il est bon contre la carte qui domine, ouais, fait que c'est.
Ils ont encore l'option. Tu sais, il y a aussi. Mais là, les gens jouent des Silcrap.
Ouais, ça, c'est fort.
Ils jouent des Valor Stance. Ils
Stance.
jouent des Dromokos Common.
Ouais.
Dans les decks Green White. Si on parle des decks les plus populaires, là,
Ouais.
le Valor Stance, c'est bon contre Seedrino.
Clairement. Ouais.
Les Silcrap, c'est bon pour les cartes qui se rendent à Seedrino. Parce que la force de Seedrino, c'est d'avoir des cartes avant qui t'aident à te rendre là. Mais là, les gens ont vu que il y a comme Abzan a perdu comme ses trois meilleures cartes qui sont Courser, Tatis puis Heroes encore.
Ouais.
Ils ont encore gardé Abzan Charm, mais le fait de ne plus avoir Tatis, Heroes Downfall, Courser, ça fait que tu as besoin de jouer plus de créatures avant de te rendre à Seedrino
Ouais, c'est
pour
ça.
pas mourir.
Ouais,
Mais là,
exactement.
Trap, ils jouent des Dromokos Common, donc ces créatures-là sont mortes. Là, tu joues un Seedrino, puis Valor Stance.
Ouais,
Ou une Crackling Dome. Ou, parce que là, il y a beaucoup de Crackling Dome, encore. Non, pas encore. Là, il y a des
Là,
decks.
il y a... Ouais.
Des decks qui jouent des Crackling Dome avec des Valor Stance, avec des Murderous Cut.
Ouais.
Mais c'est pas que contre Seedrino, c'est comme incidentel. C'est
C'est
comme.
ça. C'est que
Par
ça va
accident,
bien.
ça
C'est pas... ouais,
joue.
ça... C'est ça, ça, ça arrive que ça gère ces joueurs.
Mais c'est encore une carte qui est exceptionnelle. C'est comme une carte pour le choix, puis ça tue tellement rapidement là, que t'as pas le
L'autre
choix.
est. Ouais. L'autre, puis en plus, c'est tellement bon avec les fetch que t'sais, ça te remplit ta vie parce que t'as fetché, tandis que l'autre, vu qu'il a fetché, ça descend sa vie. Fait que c'est vraiment une carte qui est très bonne, mais effectivement, peut-être pas, ce sera peut-être pas l'All-Star de la fin de semaine parce que justement, les cartes qui sont en ce moment utilisées pour gérer notamment Jace, mais aussi pour la méta, ben, continuent à avoir Seedrino en tête.
Ben, je pense que oui, moi, on dirait pas que ça. De discussion, ça va vraiment, mais je pense que si Drano, ça va faire la finale encore, moi, je pense,
Ouais,
au Québec.
ouais.
Juste parce que là, les gens, ils ont comme une base sur quoi se baser pour bâtir leur deck Abzan. Parce que jusqu'à maintenant, il y a personne vraiment qui parlait d'Abzan
C'est
en
vrai.
standard. Les deux gros tournois qu'il y a eu, c'était deux Star City Game Open. Les deux, c'était que tout le monde jouait à Green White.
Ouais, Green White ou Dark Jeskai,
Ou Dark
évidemment.
Jeskai. Mais qu'est-ce qui est bon contre les decks de Graveyard? DNF
Ouais.
Endzo. Fait que là, les gens jouent ça. Puis là, en plus, les decks d'aristocrates.
Ouais.
Ils utilisent le Graveyard. Les decks de Jace.
Ouais,
Ils utilisent
vraiment.
le Graveyard. Ça tue les créatures que tu peux ramener avec Obsidian Command.
Tout
Puis
le
ramener.
Dell, c'est même dans la Tarka, limite.
Oui, parce que ça tue les créatures de Tarka. Donc, Anafenza fait que Abzan est comme un peu meilleur présentement.
Ouais, c'est ça.
C'est juste de voir si les gens sont capables d'adapter la mana base pour pas avoir trop de land qui rentre taper. S'ils sont capables d'adapter une bonne mana base qui te fait pas trop de damage et que les land rentrent pas toutes taper, je suis pas mal sûr encore que le deck va faire au moins deux copies là, dans le top 8 du classement.
Ok.
Parce que
Excellent.
ça a comme un avantage naturel dans les decks les plus joués. Puis
Ouais.
les cartes sont tellement grosses contre Jeskai que les Fire Impulse, ça fait rien. Wild Slash, ça fait rien. Fait que là, il faut qu'ils pigent toutes les Crackling Dome et les Valorous Stance de leur deck. Puis qu'ils changent leur deck un peu pour battre ça. Mais là, les autres match-ups sont de plus en plus difficiles. Fait que ça comme. Juste le fait que le deck est présent va faire que la metagame va probablement encore changer un peu.
Ok, ouais, intéressant. Ça va être un beau Grand Prix, je pense, Québec, là. Ça va faire vraiment d'y voir de la variété. Je m'attends. D'habitude, quand un deck performe bien au Pro Tour, là, c'est comme si on s'attend que ça va dominer, puis que tout le monde va jouer ça, puis que c'est le deck qui va battre ce deck-là qui va gagner, finalement. Mais là, je trouve que tout le monde est conscient que là, le Pro Tour qui vient de se passer. Le limiter a eu gros l'impact. Je sais pas, on dirait que je sens que chez les joueurs, la métagame est restée ouverte après ce Pro Tour-là. Puis des fois, c'est pas le cas pantoute. Hey, après le Pro Tour avec Devotion to Blue, là, Je sais pas si tu te rappelles, là. Écoute, le lendemain, tout le monde jouait ça, puis tu sais.
Or, le dernier Pro Tour avant la rotation, la liste que de mono, les listes de Mono Blue étaient 70 de 75 cartes, pareil comme il était.
Ouais, c'est ça. Exact. Tandis que là, je pense vraiment que c'est bien plus ouvert, là. Vraiment plus ouvert. Fait que.
Puis si je peux rajouter aussi le fait que c'est ouvert, c'est il y a aussi en partie, en tout cas moi personnellement, je trouve que le top 8 du Pro Tour a fait aussi que c'est un peu ouvert. Parce que les rondes étaient tellement courtes puis tellement juste d'un côté. Parce que peu importe, là, les gens mulliganaient 5.
Le gars en finale qui a mulligané à 6 puis il a gardé pas de
Mais tu sais, les rondes d'avant, là, à part la première quart de finale, j'ai compté le temps que ça a pris pour les trois rondes d'après. Le temps de jeu, c'était quelque chose comme 50 minutes pour les trois rondes.
laine.
Fait
Ouais,
que ça
c'est
m'a vraiment donné
c'était
une bonne impression des decks, puis des gens qui pilotaient les decks, comme le deck Atarka, il a juste pogné le mauvais match-up.
Ouais, c'est ça.
Il a manqué les land drops, puis
Ouais.
il n'a pas réussi à passer au travers. Jeskai contre Abzan, c'était. Owen Turtenwell contre Paul Dean, c'était très, très, très juste d'un côté, là. Puis on dirait qu'Owen n'était comme pas dans. Pas assis devant lui, là. C'était pas normal, qu'est-ce qui s'est passé. Fait que c'est comme. Moi, en tout cas, moi, ça m'a pas comme donné
Une
une bonne.
indication claire.
Ouais, c'est ça. Fait
OK,
que je
cool.
pense que la metagame, elle va changer aussi pour ça. Parce que
Ouais.
les gens sont pas habitués, puis ils ont pas une bonne impression de ce qui s'est vraiment passé, puis de ce qui se passe vraiment.
Ouais, ça va être intéressant, sérieux. Je pense que vraiment, là, le Grand Prix de Québec va. En plus, ça va être. Il va y avoir un SCG Open en même temps. Fait que le standard va comme être travaillé là, beaucoup cette semaine. En fin de semaine, on va avoir vraiment une belle image de standard. Puis tant mieux. Mais je trouve ça intéressant que toi, si tu avais à faire un choix, tu l'as dit tantôt, est-ce qu'après notre discussion, ça resterait un Dark Jeskai qui est plus du côté de Mardu Splash Blur ou est-ce
Oui.
que. Ouais.
J'ai toujours la fibre d'Abzan dans le corps, mais je suis pas certain des match-ups contrôle avec la perte de Tatis puis de
OK,
Courson.
ouais.
Comme j'aurais comme un peu peur de me rentrer dans un tournoi puis jouer à Abzan, pas de Tatis.
Ouais,
Comme
non, c'est clair.
jour après jour, puis c'est aucun problème dans n'importe quelle situation, mais le fait de perdre Tatis, Courson. Ça frappe là. Moi, j'irais
Ouais.
vraiment avec un Jeskai qui est redondant, qui a beaucoup de réponses différentes, qui est stable, qui a beaucoup de power dans le deck, là.
Excellent ça. Puis moi j'adore les decks Esper Control. Puis même s'il y a plusieurs joueurs qui ont bien fait avec la pile d'Esper au Pro Tour, je sais pas, il y a quelque chose moi avec les decks Esper en ce moment. Il y a Esper Dragon, c'est un beau deck, il y a bien le fun, mais j'ai l'impression que c'est pas un deck qui en ce moment, puis là je dis ça, puis peut-être que ça va gagner le Grand Prix, mais ça se peut très bien. Ça se peut vraiment très bien, mais j'ai l'impression que c'est un deck qui manque d'outils. Je sais pas, il y a un petit quelque chose là, dans les outils que Esper a en ce moment, il y a des cartes extrêmement puissantes, mais on dirait que le gâteau lève pas en ce moment. Fait que moi j'aurais tendance aussi à aller plutôt vers Dark Jeskai en ce moment. Je suis pas très original, mais ce serait le genre de deck que j'aimerais jouer, je pense. Et en plus, il est bien positionné. Fait que ce serait clairement mon choix aussi. Mais en sachant aussi qu'il va quand même y avoir des beaux decks en fin de semaine, je serais curieux de voir comment justement Ben Token va performer en fin de semaine. Je serais. Si, ouais, s'il y en a, effectivement, parce que c'est un deck qui est vraiment en dessous du radar, là, ouais, vraiment.
Peut-être juste personne qui l'a vu à temps pour se pratiquer aussi.
Ouais.
Ou c'est peut-être pas les bonnes personnes qui vont le jouer non plus, tu
Aussi. Aussi.
sais. C'est un peu méchant à dire de même, mais tu sais, des fois aussi le fait qu'il n'y ait peut-être pas autant de joueurs professionnels qui jouent ce deck-là va faire qu'il va quand même rester low profile, sous le
Pendant
radar, puis
longtemps,
pas vraiment le jouer. Puis il va comme disparaître en quelque part. Ou au contraire, il y a comme deux, trois professionnels qui vont jouer, une petite équipe qui vont aller au Grand Prix. Il y en a deux qui vont faire top 16, le deck va exploser, puis plein de gens vont le voir.
ah, ouais, c'est ça. Ouais.
C'est comme ce genre de deck-là, probablement, qui a des chances
Ça
de
pourrait y
faire.
arriver, une des deux. Excellent. Écoute, moi, ça m'a vraiment donné le goût d'écouter le Grand Prix. Je vais souhaiter bonne chance à tous les joueurs du Québec qui vont aller jouer en fin de semaine. Je pense que ça va être un beau moment pour la scène québécoise. C'est dommage que tout le Pro Tour va être. Voyons, le Grand Prix va être couvert en anglais. Avec l'équipe de couverture de l'événement, ça va juste être en anglais. C'est quand même triste. Mais bon, hein, c'est ça.
Renault sur le cas, là.
On peut mettre Renaud sur le cas, il va nous écrire un manifeste de 20 pages sur
Ouais,
la
ça,
situation.
on devrait avoir la balado au Grand Prix Québec.
Ouais, pourquoi pas un de ces jours. Je vais travailler fort là-dessus, puis peut-être que si on devient plus régulier, peut-être qu'un jour ils vont faire appel à nos
Ils n'auront pas
services.
le choix de nous organiser.
Exactement. Alors, hey, merci Laurent pour l'épisode, c'était vraiment cool, puis au plaisir d'écouter le Grand Prix, de faire un retour sur ça là, dans un prochain épisode.
Ouais, ça va.
Alors, hey, salut Laurent.